Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou.
Bienvenue chers auditeurs et auditrices dans cette deuxième partie de Capi Service qui s'intéresse à l'employabilité des jeunes, jeunes diplômés, comment faire une recherche active de l'emploi. Et pour en parler donc, nous aurons deux invités, il s'agit de Polydore Tangeli qui est psychologue de travail et Dr Yves Ngavan qui est expert en ressources humaines. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-6194 au numéro 081-890-63-94. Envoyez-nous vos témoignages, questions, suggestions et témoignages au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Ocapi Service. À toutes et à tous, bonne condition d'écoute de cette deuxième partie d'Ocapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Ocapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Ocapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Merci de rester fidèle à Radio Capi, chers auditeurs, jeunes diplômés, comment chercher un emploi? Avec l'avènement des Covid-19, le chômage a frappé plus de 50% de la population active titulaire d'un diplôme des études supérieures des jeunes diplômés ayant fini leurs études depuis 1 à 4 ans. Le diplôme ne constitue donc plus une garantie pour trouver du travail. Dans un tel contexte, comment décrocher un premier emploi lorsqu'on est un jeune diplômé? C'est la question principale qui lance les débats dans cette deuxième partie d'Ocapi Service. Docteur Yves Ngavan, bonjour. Docteur Yves, vous êtes en ligne? Je crois que les standards...
Bonjour Tati et bonjour à tous les auditeurs de la radio Ocapi, je suis là.
Merci de répondre à l'invitation des Radio Capi. Directement, je vous pose la question de savoir comment décrocher un premier emploi lorsqu'on a terminé les études. Est-ce que c'est facile d'intégrer directement le monde professionnel?
Oui et non, Tati. Il faut savoir que l'emploi, on ne le ramasse pas dans la rue. L'emploi, accéder à un emploi, c'est tout un processus. Et ce processus, en principe, qui ne commence pas le jour où on a décroché son diplôme. Au fait, il y a des choses qu'on doit déjà avoir en amont, comme atout, comme acquis. Et aussi, il faut développer un certain nombre de capacités pour pouvoir effectivement décrocher l'emploi après ses études. Parfois, malheureusement, nos jeunes étudient vaille que vaille. Et c'est à la fin de leur parcours éducationnel qu'ils se rendent compte que je dois trouver du travail. Et en ce moment-là, ça devient... beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi vous voyez que nous avons beaucoup de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Mais pour ceux-là qui s'étaient déjà préparés en amont, c'est-à-dire en ayant un parcours éducationnel de qualité, mais en se préparant aussi individuellement, je pense que la tâche semble être plus ou moins facile, mais dans l'ensemble, il faut dire que ce n'est pas aussi aisé de quitter directement l'université et de décrocher l'emploi. Mais ce n'est pas du tout impossible.
Mais comment s'y prendre exactement alors?
Ah oui, comme je le disais tantôt, nos jeunes, surtout en RDC, parlons-en parce que nous sommes au Congo, du coup, ils partent déjà sur un faux pied parce que le système éducatif ne le prépare pas suffisamment à décrocher l'emploi ou au monde professionnel, ce qui fait que ils étudient beaucoup de théories qui n'ont rien à voir avec le système éducatif. Ça, c'est déjà assez malheureux. Mais il faut aussi dire que ces jeunes-là, eux-mêmes, nombreux n'ont pas le courage de se rapprocher du monde professionnel à travers des formations, à travers des coachings, parce qu'ils existent dans le pays, pour connaître déjà le premier pas à faire ou les éléments à maîtriser une fois qu'on quitte l'université, comment s'y prendre. Mais il faut savoir qu'il y a trois choses essentiellement que quelqu'un doit détenir pour pouvoir décrocher l'emploi lorsque il veut sortir de ses études. La première des choses, ça s'est fait en amont, c'est-à-dire le choix de filière d'études ou de parcours qu'on veut obtenir. Comme déjà on a la vision de trouver l'emploi après ses études, il faut d'abord, lorsque tu fais le choix de l'université ou de la filière à faire, il faudra que ce choix-là soit en lien avec les opportunités du marché dans la zone où tu te retrouves. Parce que si déjà le choix au départ n'est pas de qualité, il faut se dire que tu auras du mal à décrocher l'emploi une fois créé. Deuxièmement, il faut avoir un profil. Le profil qui répond aux exigences du monde du travail. Il faut dire que nous sommes dans un pays où, de manière globale, nous avons deux types d'emplois. Nous avons des emplois de carrière, mais aussi nous avons des emplois à type partiel. Donc, que nous avons par exemple avec des organismes internationaux qui viennent avec des projets, avec des temps assez réduits et qui exigent un peu plus d'expérience que les emplois de carrière, par exemple à la GECAMINE, à la
fonction publique.
La fonction publique. Où on peut t'accepter sans expérience, on sait que tu vas y rester pendant 30 ans, ensuite de suite tu vas acquérir de l'expérience. Mais les emplois de mission, et ce sont ces emplois qui nécessitent beaucoup plus d'exigences. Donc on doit déjà se positionner avec un profil qui répond à ces deux types d'emplois pour pouvoir effectivement, une fois qu'on quitte l'école, on sait où on y va. Si tu veux travailler dans les Nations Unies par exemple, tu dois savoir un peu qu'est-ce que je dois avoir comme bagage, quel profil que je dois développer, quelles compétences que je dois acquérir, quelles notions que je dois avoir, quelle expertise que je dois détenir, qui vont me permettre d'accéder avec beaucoup de facilité au système des Nations Unies ou encore dans des organismes internationaux. Troisièmement, c'est les techniques de recherche. Aujourd'hui, pour chercher de l'emploi, comme tu l'as dit à l'introduction, vous allez voir la plupart des offres, c'est en ligne. Alors, il y a très peu de jeunes aujourd'hui qui développent les capacités avec les nouvelles technologies. Ils s'arrêtent juste Facebook ou WhatsApp, ainsi de suite, mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a des structures où tu peux poster ton site, où tu peux t'inscrire. Ainsi de suite, cela te permettra de capitaliser la façon de chercher. Mais aussi, il faut avoir des outils de qualité. Il faut avoir un bon CV, il faut avoir une bonne lettre de motivation, mais il faut aussi avoir des techniques comment on répond à un recruteur au moment où on te demande de passer l'interview. Donc voilà un peu les trois petites choses que nos jeunes qui veulent décrocher l'emploi peuvent essayer d'améliorer pour pouvoir décrocher l'emploi lorsqu'ils sont en face d'une opportunité.
Docteur Yves, déjà à la fin du premier cycle au troisième graduat, les institutions académiques envoient les candidats finalistes dans des stages académiques. Est-ce que c'est aussi une occasion à capitaliser?
En principe, oui, mais en réalité, chez nous, c'est non, parce que ces stages sont très mal encadrés. Vous allez voir, pour un même stage, vous prenez deux étudiants d'une même promotion. L'un va aller dans telle société, là-bas, il va juste classer les papiers. L'autre va aller acheter des sucrés. Donc, ce sont des stages qui n'ont pas d'objectif clair. Il n'y a pas de carnet de stage avec des objectifs clairs. Ces enfants, quand ils arrivent en milieu professionnel, ils sont utilisés parfois abusivement. Et pour eux, l'essentiel, c'est d'avoir une fiche cachetée et signée et de produire un rapport de stage qu'ils vont venir déposer ou encore faire le plagiat d'un rapport existant en changeant juste quelques dénominations. Donc, Alors que c'était vraiment des occasions, si c'était bien encadré, bien réfléchi, où on donne à ces jeunes la possibilité d'entrer en contact avec le monde professionnel et d'être suivi. Parce que au sein des entreprises, en principe, on doit avoir des maîtres de stage. Parce que un stage, c'est un élément clé pour permettre à l'étudiant de capitaliser un peu toutes ces théories en les confrontant aux réalités professionnelles, mais aussi à l'entreprise de profiter momentanément d'une main-d'œuvre, parce que toutes les entreprises sérieuses ont besoin de la main-d'œuvre pour accroître la productivité. Mais chez nous, ça s'est fait de manière un peu anarchique et très désorganisée, du fait que les universités ne savent même pas pourquoi ils envoient ces enfants en stage, ça devient quelque chose de fantaisiste. Et ces enfants, ils ne savent même pas pourquoi ils vont en stage pour être cotés, avoir des points et passer des promotions. Du coup, nous ratons cette occasion, mais si c'était mis vraiment à profit, suivant avec des normes bien établies, je crois que ça pourrait quand même servir de quelque chose pour voir. La preuve, c'est que poser la question à ces jeunes qui viennent de stage, pour leur dire qu'est-ce que tu as fait au stage, ils te diront rien de spécial. C'était juste c'est le classement des dossiers où il était là en train de classer des fiches, ou encore c'est lui qui achetait des sucrés ou il allait déposer des courriers. Donc malheureusement, ça ne se fait pas dans les normes.
Il y a aussi une autre pratique hein, en vogue dans les universités instituts supérieurs de la RDC. Il s'agit des stages bloqués, c'est-à-dire lorsque les entreprises n'ont pas de place pour accueillir de stagiaires, les candidats finalistes peuvent passer leur stage au sein de l'institution qui les forme. Est-ce que c'est encourageant, cette pratique?
Bon, une université qui organise les stages au sein de l'univers de son institution, je me dis, est-ce qu'ils ont un incubateur, par exemple, de création d'entreprise? Ou encore, c'est la théorie bis. Donc, je me rends compte que il faut dire de manière globale, dans notre pays, le système éducationnel et le système d'emploi fonctionnent très, très mal et au détriment de la jeunesse. Parce que on forme des gens sans objectif. On ne sait même pas pourquoi on forme des gens, sauf en leur octroyant des diplômes. Et le système de l'emploi n'arrive pas à capitaliser toute la manne juvénile que nous avons pour booster l'économie. Les enfants sont à la maison alors qu'ils ont de l'énergie et ils ont un peu de connaissances qu'ils ont eu à l'université. Alors on se demande pourquoi ces deux systèmes, le système éducationnel et le monde du travail, n'arrivent pas à se mettre ensemble pour sortir de perspectives pour donner la chance à la jeunesse de bien étudier et de trouver d'emploi pour faciliter le développement du pays. Et ils travaillent de manière disparate et malheureusement c'est au détriment de la jeunesse. Donc une institution ne peut pas organiser les stages alors qu'il n'a pas de structure de pratique, ça sera de la théorie bis.
Jeune diplômé, comment rechercher un emploi au lendemain de vos études? C'est le sujet que nous sommes en train de traiter dans Okapi Service. Si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94 et au numéro 081-890-63-94.
Oh Mario,
tout le monde
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Donnons cette fois-ci la parole à deux auditeurs, Gentil Lumanou qui nous appelle depuis la ville de Kananga et Justin qui interviendra depuis Fungurume. Nous commençons par Gentil Lumanou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Tati, c'est Gentil Basse Kwamba Wachidimu depuis la ville de Kananga.
Gentil Basse Kwamba. Oui, allez-y, posez la question directement à notre invité. Quel est le constat que vous faites personnellement concernant l'employabilité des jeunes au niveau de Kananga?
Non, vraiment, je ne peux pas vraiment vous dire beaucoup, puisqu'ici à Kananga, vraiment, on n'a pas même de travail, on n'a pas même d'emploi. Hein. Ce que je voudrais d'abord ajouter, ou bien dire à l'invité, ici, pour retrouver un emploi, au Congo ici, il faut d'abord corrompre ou bien avoir des connaissances avec les députés, gouverneurs, préfets, directeurs ou bien les ministres pour avoir un emploi. Parfois, si vous terminez comme ça, si vous n'avez pas de connaissances, tu ne peux pas avoir un travail comme ça. Alors, ce que je veux aussi dire, ici, vraiment, pour avoir un travail, c'est tout un problème. Même si vous avez terminé, si vous avez votre connaissance, si parfois vous êtes expérimenté dans tel ou tel domaine, bon, si parfois vous n'avez pas l'argent, vraiment, tu ne peux pas avoir un travail. Ce que je veux aussi dire à notre invité, d'abord, est que de dire aussi à notre gouvernement de respecter notre constitution à son article. Parfois, c'est article 36 qui stipule que le travail c'était un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant aux travailleurs ainsi qu'à la famille une existence conforme à la dignité humaine complète pour tous les autres moyens des protections sociales. Notamment la pension de retraite et la viageur et les viageurs.
La rente aux viageurs, oui.
Laissé dans son travail à raison de ses origines, de son sexe, de ses conditions socio-économiques. Parfois, monsieur Tati, vraiment ici, nous avons même, dans l'enseignement ici, nous avons même des chevronnés, des papas, enseignants, d'autres dans des fonctions publiques comme ça, qui sont chevronnés, mais qui ne sont pas, qui sont en train de travailler. Même à travers 80 ans, 90 ans, qui sont en train de travailler. Maintenant, il y a des jeunes qui ont terminé leurs études pour ne pas avoir le travail. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment... qu'est-ce que les jeunes peuvent quand même faire pour aussi avoir quand même l'accès au travail tant que les chevreuils sont là en train de travailler, ils ne laissent pas les places aux autres, il n'y a pas même de retraités, il n'y a pas même de retraites ici. On avait dit que même dans les émails ici, on avait dit qu'on va retraiter les gens. Jusqu'alors, nous voyons toujours des problèmes aux problèmes. Comment les jeunes peuvent quand même avoir aussi l'accès aux emplois. C'est ce que je voulais aussi vous dire, monsieur Tati, c'est gentil, parce qu'on est depuis Kananga.
Merci beaucoup, gentil. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Cette fois-ci, donnons la parole à Justin qui intervient depuis la ville de Fungurume. Bonjour, Justin.
Bonjour, monsieur Jody. Ou ça, c'est monsieur Marcel. J'ai pas bien suivi le présentateur.
C'est plutôt Tati.
Ah oui, Tati Mapoukou. Sinon, je voulais dire ceci. Il y a les chiffres que vous avez avancés, 50% de la population active. Mmh. Et ces 50%-là, c'est par rapport au nombre de Congolais, ou ça, c'est seulement les 50% de la population active travailleurs, là où il y a 50% qui est envoyé au chômage. Et là, ce sont ces calculs, puisque moi, dans notre tabloïd, je vois 50%, c'est beaucoup de travailleurs au Congo. Or, que le Congo pleure déjà, c'est un taux de chômage très élevé par rapport, peut-être nous pouvons être même le dernier au monde, c'est le pays qui a les taux des employés très faibles. Je voulais vous dire ceci, monsieur Jody, monsieur Tati. Le Congo a déjà une plaie et le coronavirus est venu encore avec les couteaux enfoncés encore dans cette plaie-là qui faisait déjà mal au pays. Mmh. Et surtout, il y a un sérieux problème qui se pose dans l'engagement. Parfois, l'engagement est devenu héréditaire. Un père décède, on cherche dans sa famille, soit un enseignant, soit un employé, on remplace par son père. Et pour barrer la route à ces gens-là qui n'ont même ni parents ni mères qui travaillaient, donc ils sont en train d'aérer comme ça malgré leur niveau de compétence. Il y a encore deuxièmement, monsieur le journaliste, il y a le poste là, quand on lance les appels d'offres, on délimite que nous cherchons à prendre quelqu'un de tel niveau. Et parmi les obligations, vous devez apporter votre expertise de, je ne sais pas, 5 ans
d'expérience professionnelle.
D'expérience professionnelle. C'est fréquent ici à Fungurume. Et même partout sur les offres là que l'État lance, même les entreprises privées, ils délimitent que nous voulons l'attestation de services rendue pour autant d'années. Mmh. Alors, nos jeunes pépinières, où ils vont trouver les attestations de services ça c'est enfoncé de plus. Et les tenants de pouvoir, les tenants de poste, ils ne cherchent pas à les céder. Donc vous trouvez quelqu'un qui est trop vieux, amorti même, il n'a même pas le temps de faire encore la révision sur la lecture. Donc on fait que du copier-coller, mais au Congo c'est permis, et on ne cherche pas comment contourner cela pour que les nouveaux aussi trouvent des emplois. Et c'est une grande pandémie, qu'est-ce que je peux dire par là, c'est un grand fléau qui ronge la population active du Congo. Et même nos autorités, ils ne se penchent pas pour tout voir qu'est-ce qui se passe au juste et comment allons-nous régler. Si on dit de créer les entreprises, et même les entreprises, on va pas prendre les entreprises nouvellement créées qui n'ont jamais travaillé. Or que l'entreprise, c'est une structure. Il peut avoir les documents, mais il va recourir ailleurs pour avoir l'expertise des gens là qui ont déjà travaillé dans ça. On nous prive, nous les Congolais, les fils majeurs, qui vont développer nos coins, qui vont développer notre pays, on donne les marchés aux expatriés. Peut-être ces expatriés, devant, on nous brandisse les Congolais. Mais derrière, vous voyez, ce sont les Indiens, les Chinois, les qui viennent avec leurs capitaux. Et la plupart de la somme est ramenée chez eux. Fungurume est resté comme il était. Il n'y a pas les invasions. On voit même les entrepreneurs nouvellement créés, et les gens qui ont créé leurs entreprises ici. On lance les marchés, même l'État qui devrait nous garantir, il donne les marchés ça aux expatriés. Même quand on m'a que je suis en train de dire, il y a les expatriés qui ont décroché les contrats de l'État. Et je l'ai dit sans crainte d'être contredit. Mais c'est là, ça nous met plus profondément par terre. Si notre invité peut nous expliquer pourquoi l'État, lui, qui est l'autorité régulataire, c'est qu'il nous met les bateaux dans les roues, nous, les propres, ses propres fils majeurs du pays, et il donne les marchés aux expatriés. Il y a quoi qui est derrière là? S'ils peuvent aussi nous dire, nous pouvons toujours contourner par là. S'ils demandent les acomptes, on peut le faire. Nous voulons développer notre pays. Mais ils prennent les venants d'ailleurs, et les mêmes les dollars. Quand vous allez à la banque, monsieur le journaliste, à la fin du mois, vous verrez les expatriés venir dans les banques, transférer maintenant l'argent chez eux. En tout cas, ça n'honore jamais que notre invité puisse nous expliquer pourquoi on demande ces 5 ans-là d'expérience, et or qu'on cherche à relever la pauvreté ici chez nous au Congo.
Merci beaucoup Justin, nous rappelons que vous intervenez des Fungurume. Mais docteur Yves Ngavane, que répondez-vous à ces deux auditeurs?
Oui, merci Tati, merci aux auditeurs pour la pluie de questions et des suggestions également, des constats. J'aimerais situer ma réponse à des niveaux. Mm-hmm. Premièrement, le respect de l'article 36 de la Constitution, que j'appelle de tous les vœux, parce que le gouvernement doit respecter cet article de la Constitution. Ça fait beaucoup d'années que nous ne cessons de le dire, parce que l'emploi, ce n'est pas un cadeau, l'emploi, ce n'est pas une faveur, mais c'est un droit, c'est un devoir pour tout citoyen, et que cet article de la Constitution doit être respecté de manière stricte pour donner la chance aux Congolais et surtout à la jeunesse de pouvoir retrouver le chemin de l'emploi. Par la même occasion, je dirais que nous avons toutes les structures nécessaires pour une gouvernance efficace dans le secteur de l'emploi. Malheureusement, il y a beaucoup de failles. On a un ministère et tous les autres programmes relatifs à cette question. Mais qu'est-ce qui se passe exactement pour que nous ne puissions pas décoller? Je crois que si on met un peu du sérieux dans le secteur de l'emploi, en commençant par le ministère et les autres structures rattachées à ces ministères de l'emploi, travail et prévoyance sociale, on va résoudre le pinet problème de la corruption, du clientélisme et qui gangrène effectivement l'appareillage laborieux de notre pays. Nous pensons que ce n'est pas très juste dans un pays de plus de près de 100 millions d'habitants où 70% ce sont des jeunes de moins de 35 ans et que le statistique n'existe presque pas, parce qu'aujourd'hui, si vous on demande de manière exacte d'abord combien de chômeurs que nous avons au Congo, pas des statistiques. L'Institut national de l'emploi va vous renvoyer à l'Institut national
de statistiques.
les statistiques vont vraiment, nous attendons des données du ministère du Travail et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux.
Et s'ils ont des renseignements, ce sont des renseignements de plus de 10 ans, des années 80, 90.
Voilà. Alors que ces institutions fonctionnent à temps plein, et il y a même des gens qui sont payés chaque mois, mais ils sont incapables aujourd'hui de nous fournir un répertoire actualisé, numérisé, stratifié avec des données réelles de la population en matière du travail. Et comment voulez-vous développer des programmes ou des politiques d'emploi aussi longtemps qu'on ne connaît même pas des chiffres exacts de personnes qui ont besoin du travail secteur par secteur et dans les différentes provinces? Donc le problème doit commencer là-bas. Les gens qui nous dirigent dans ces secteurs-là doivent quand même démontrer un peu du patriotisme et du sérieux pour aider la population. Parce qu'on ne doit pas revenir tout le temps sur la même chose alors qu'ils sont payés par les moyens de l'État. Ils sont là pour représenter l'État et faire le travail en fonction en ce qui concerne la population. La question de l'expérience professionnelle, c'est vrai, c'est une question à double tranchant. Parce que il y a d'une part ces sociétés qui ont besoin de faire des affaires. Une société, une entreprise n'est pas une ONG, ce n'est pas une entreprise, c'est pas une structure caritative. C'est du business. On vient pour
générer des bénéfices. Oui.
Voilà. Et ils ne voudront pas vous prendre alors que vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas d'expérience, juste pour vous faire plaisir parce que vous êtes congolais. Donc ces structures viennent, ils sont majoritairement capitalistes, ils viennent pour faire des profits. Et c'est à nous, en tant qu'individus, de se préparer à travers notre éducation, à travers les formations, à travers des outils, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir faire face à ces gens de marché. Ce n'est pas toutes les personnes qui finissent l'école qui nous sont incapables de trouver du travail. Non. Il y a des gens qui finissent l'université qui trouvent aussi du travail.
Oui.
Ça existe. Donc, ces questions aussi, il y a une préparation individuelle, au lieu tout le temps de s'accuser les gouvernements et des entreprises, mais de notre côté aussi, préparons-nous. Et tu as quel type de CV? Comment tu rédiges ta lettre de motivation? Comment tu réponds à l'interview? Comment, au fait, quel profil que tu as aujourd'hui que tu peux brandir lorsqu'on t'est, tu es face à une opportunité d'emploi? Donc, il y a aussi un peu beaucoup de négligence. Il y a des gens qui se croient que le jour où il a seulement son diplôme universitaire, c'est fini, il est capable de tout faire et capable de travailler. Or, ce système éducatif accuse beaucoup de lacunes. Et aujourd'hui, aussi longtemps que les réformes prennent à venir, nous appelons le jeune, c'est pourquoi on a des structures, par exemple, d'IRC Business School, nous avons écrit des ouvrages depuis des années qui forment et qui informent les jeunes sur la démarche à suivre si on veut décrocher son emploi après ses études. Donc, c'est pas de la magie et c'est faisable. Donc, il y a la part des entreprises qui doivent aussi comprendre que ces jeunes viennent de milieux universitaires où ils sortent avec beaucoup de théories et ça ne servirait à rien de donner, de demander des nombres d'années inutiles parce qu'ils ne trouveront pas de jeunes avec ces nombres d'années parce qu'ils viennent des universités. Au service de l'État, l'ONEM, ainsi de suite, de collaborer avec ces entreprises pour trouver des alternatives. Au lieu d'exiger l'expérience, mais on peut partir avec, par exemple, des essais, des contrats d'essai, et de voir si la personne arrive à s'adapter et de confirmer son contrat, au lieu de mettre déjà une barrière en disant « si tu n'as pas d'expérience, tu ne viens pas ». Donc, l'État peut jouer cette médiation, cette passerelle entre entreprise et les systèmes éducatifs pour dire ces enfants viennent de l'école, ils n'ont pas assez d'expérience, mais vous aussi, vous devez faire les affaires, mais trouvons des mécanismes.
Docteur Yves, la ligne s'est dégradée et on a perdu le contrôle de Docteur Yves. Marcel va tenter de lui rappeler. Nous avons notre deuxième invité qui nous a rejoint. Oui, Docteur Yves, vous êtes en ligne? Il y a des coupures intempestives avec la ligne. Oui.
Mais malheureusement, ce programme n'a pas porté de fruits. Mais c'était quand même une bonne initiative de trouver des éléments intermédiaires. C'est-à-dire, après l'étude, on pourrait proposer des stages de qualité pour développer des aptitudes et résoudre la question de l'expérience professionnelle.
Vous faisiez allusion au programme PROYEN, lancé par le ministère du Travail et Prévention sociale?
Non, le programme PROYEN, c'était vraiment de l'escroquerie à ciel ouvert. Ça, cette histoire n'a jamais donné des fruits. On a escroqué des gens Et jusque-là, les gens, les 2 dollars, les 5 dollars s'inscrivant, et on n'a jamais donné un feedback en disant combien d'argent ils ont reçu et qu'est-ce qu'ils ont, ils ont fait. Ça, c'est vraiment de l'escroquerie à ciel ouvert. Mais je parle plus de programme emploi diplômé. C'est un programme piloté par l'Office national de l'emploi avec le financement de la Banque africaine de développement.
Ok.
Et aussi, dans gérer avec beaucoup de désordre, de clientélisme, de corruption à haut niveau. Et ça, parce qu'on a cru que ce programme pouvait porter fruit, mais écoutez, mon Dieu, avec cette corruption qui a pris racine au niveau du pays, ça ne permet pas à ce secteur de décoller. Donc, il y a des mécanismes aujourd'hui, bien sûr, que nous pouvons mettre en place pour pallier effectivement à la question de l'expérience professionnelle, notamment, et en réformant notre système éducatif pour que ça se rapproche du monde professionnel, que les structures de l'État puissent travailler avec les entreprises pour améliorer la qualité des stages, mais aussi que nos jeunes eux-mêmes, qui ne s'arrêtent seulement à se contenter des diplômes, mais ils peuvent poursuivre certaines formations pour développer des profils adéquats et faire face au monde professionnel.
Merci beaucoup, Dr. Yves. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en ressources humaines et avec vous, on a fait le point sur jeunes diplômés, comment rechercher un emploi le lendemain de ses études. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Nous donnons cette fois-ci la parole à notre deuxième invité. Il s'agit de Polydor Tangeli. Il est spécialiste, il est psychologue du travail et coordonnateur du groupe Mosala. Polydor Tangeli, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à Dr. Yves, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capo.
Jeune diplômé, comment rechercher un emploi au lendemain de ses études? C'est le thème qu'on est en train de traiter. Dites-nous, c'est une question directe, comment s'y prendre au lendemain de ses études pour avoir de l'emploi?
Bon, il n'est pas aisé de appeler le Dr. Yves qui est pratiquement un alter ego que je précise. Pour répondre à cette question, mais cependant, il faut souligner, si pas se redire, en disant que le jeune qui quitte l'université doit essentiellement comprendre que la problématique de l'obtention de l'emploi est un problème individuel. C'est que l'école vous dote un diplôme qui n'est qu'une qualification. Mais cette qualification est à être vérifiée par ceux qui ne vous ont pas formé, mais qui ont besoin de vos compétences. Mmh. Et cette évidence de l'individualité de l'emploi impose aux chercheurs d'emploi, aux demandeurs d'emploi, certaines contraintes, c'est-à-dire une contrainte de professionnalisation. N'est pas à se contenter des connaissances théoriques qu'on a acquises à l'université, mais essayer de pouvoir additionner, c'est-à-dire ajouter à ces
certaines connaissances pratiques
sur des terrain. Connaissances pratiques.
Ouais.
Et cela aura comme conséquence que l'accessibilité à l'emploi exige un maximum de polyvalence et un minimum de spécialité. Vous voyez, il faut une certaine polyvalence puisque vous avez fait le droit, mais le droit c'est une grande rivière.
Oui.
Le droit c'est une mer. Donc, vous avez les bases pour vous jeter dans l'eau, mais vous devez choisir l'axe convenable l'axe qui vous convient. Voilà pourquoi il faut une professionnalisation. Et cette professionnalisation, vous pouvez le faire à travers des structures existantes, mais tout comme aussi par autodidactie. Tout comme par autodidactie, puisque au-delà de toutes les limites des exigences qui peuvent être inscrites dans le job description, le processus d'interview vous permet d'être en contact
direct avec les recruteurs, oui.
Vous permet d'être en contact avec celui qui a besoin de vous.
Tout à fait, oui.
Et il peut détecter certaines compétences dont il a besoin en face de vous. Pas seulement en vous lisant, pas seulement en voyant votre diplôme, mais lorsqu'il est en face de vous. Et il s'agit pas seulement des compétences techniques, hein. Il s'agit aussi des compétences socio-professionnelles. Mmh. Par exemple, la convivialité, par exemple, les bonnes manières, et tout ça vous impose au plan individuel de vous construire.
Un profil.
Construire. Et pour que vous puissiez vous construire, vous devez savoir qui vous voulez être. Hein? Vous devez vous faire une image de ce que vous voulez être dans le monde professionnel. Donc, voilà la première exigence, c'est la dimension individuelle du travail. Et cette dimension individuelle vous exige encore de l'effort. Puisqu'au fait, le travail ne fait pas partie de vous. Le travail existe dans la société. Mmh. Et pour l'avoir, il faut l'arracher. Non. Il faut l'arracher. Je ne trouve pas de travail. Ce langage-là est un langage qui dénote même de du mental non engagé en matière de la recherche d'emploi. Le travail s'arrache.
Qui dénote un peu de la paresse de la part de la personne qui cherche de l'emploi.
Oui, c'est la nonchalance. Je n'ai pas trouvé du travail. Non. Je n'ai pas arraché le travail puisqu'il est entre les mains de certaines personnes. Et c'est à moi de pouvoir le saisir pour pouvoir arracher ça. Mmh. Voilà pourquoi les questions telles que le tribalisme,
la corruption, le clientélisme,
l'externalisation de la main-d'œuvre ne trouveront pas leur sens lorsqu'on considère que le travail s'arrache. Et les capitalistes, comme l'a si bien dit mon ami Yves, ne vient pas pour jeter son argent, a besoin que vous puissiez les convaincre par rapport à ces expatriés qui viennent arracher les emplois chez nous en République du Congo. Nous devons nous questionner pour savoir
qu'est-ce qui fait que ces gens-là...
Qu'est-ce qu'ils font pour gagner l'emploi, pour arracher ça. Voilà le terme qui convient. Qu'est-ce qu'ils font pour arranger et utiliser les mêmes armes que eux dans notre pays, plutôt que de se servir de nos origines comme un oreiller de paresse, hein, pour arracher un emploi. Et un capitaliste n'est pas venu pour jeter son argent.
Pas du tout.
Donc, il y a cette dimension individuelle qui vous impose de vous rendre compétitif, qui vous impose l'effort de pouvoir l'arracher. Mais une chose est d'arracher l'emploi, mais une autre est aussi de vous maintenir dans l'emploi. Puisque il va évoquer le cas d'essai. Si par exemple le gouvernement avec les entreprises levait l'option de ne pas tenir compte de l'expérience, mais de tenir compte plutôt d'offrir aux jeunes l'opportunité d'essai, mais vous devez vous maintenir.
Oui, pendant cette période probatoire.
Hein? Ouais. Il faut développer une certaine praxis. Un étudiant par exemple qui a fini en informatique de gestion, mais qui s'est professionnalisé en ouvrant un cybercafé où il utilise les mêmes outils que celui qui est dans l'entreprise, ne sera pas dépaysé.
Non, pas du tout.
Et il va confirmer
facilement.
De cette manière-là l'essai. Il va être confirmé après l'essai puisque c'est la même chose qu'il faisait en privé qu'il fait dans un cadre organisé et institutionnalisé.
Exact.
Donc, je voulais souligner sur cette dimension d'abord individuelle du travail, puisque
au moment où beaucoup se plaignent de ne pas avoir l'emploi, il y a de ceux qui en attrapent en un clin d'œil.
Tout à fait.
À l'intériorisation de cette dimension individuelle. Et les paresseux, les taxes d'être des occultistes, d'avoir des branchements, ainsi de suite, alors ils ont forgé leur mental pour effectivement arracher ce qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un élément important que je voulais souligner. Mais au-delà de la dimension individuelle, il y a la dimension systémique. Cette dimension systémique qui fait que, oui, je dois arracher l'emploi, mais cet emploi, je l'arrache au Congo. Je l'arrache au Congo où l'emploi est mal administré. L'emploi est mal distribué. Mmh. La législation n'est pas appliquée à juste titre. Comment s'y prendre ? D'où la nécessité de maîtriser le système. De maîtriser le système. Beaucoup de jeunes que nous accompagnons dans le cadre de la recherche d'emploi ne connaissent même pas où se trouve l'ONEM. Ne sont même pas en contact avec. Ne lisent même pas des documents sur.
Les valves des différentes entreprises et tout ça.
Exactement. Les procédures, ils rêvent de travailler chez Vodacom, bon, je ne sais pas citer les entreprises, les grandes entreprises comme notre ami de Funguru, mais là-bas, là où il y a des mining, mais ils ne font pas l'effort de comprendre quelles sont les exigences de Funguru, mais quelle est la part de l'État dans ce que Funguru fait, quel est le système, quels sont les tenants et les aboutissants qui explique les emplois qui sont dans cette entreprise. Ce qui fait que on peut se préparer individuellement, mais face à un système qu'on ne connaît pas, on va naviguer à vue. On va essentiellement naviguer à vue.
Président Tanguely, s'il vous plaît, je reviens à vous. Il y a des auditeurs qui patientent. Hein. Donnons-leur la parole et puis je vais revenir à vous. Nous commençons par Albert Monanga qui nous a écrit, qui nous appelle depuis Kananga. Albert Monanga, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour.
Nous,
Yves qui est parti aussi à notre invité.
Nous parlons de recrutement des jeunes au lendemain de leurs études supérieures et universitaires. Quel est le constat que vous faites à Kananga?
Oui, vraiment, pour avoir de l'emploi ici au Congo, c'est un calvaire, monsieur Jésus. Donc, on pensait avoir de l'emploi, malheureusement, nous vivons le contraire. Et quand cela ne tienne, j'encourage un peu tout celui qui cherche l'emploi et aussi à pouvoir un peu essayer quelques démarches que je dois épingler ici. Mmh. La première démarche, d'abord, il faut consulter les sites internet qui publient les offres d'emploi. Et aussi, il faut ce qui est nécessaire. La deuxième démarche, c'est celle d'informer les connaissances, aussi c'est partager le CV. Peut-être les connaissances peuvent être au courant aussi de quelque part où on recrute. Mmh. Ils peuvent aussi vous informer aussi. Peut-être si c'est nécessaire, vous pouvez aussi postuler. Troisième démarche, c'est de lire les panneaux d'affichage. Nous avons du mal à lire les panneaux d'affichage. On voit afficher quelque part. On passe aussi. Peut-être il faut prendre connaissance de ce qu'on a affiché. Mmh. On peut recruter aussi, il y a possibilité de pouvoir postuler. Donc, quatrième démarche et la dernière est celle aussi de pouvoir postuler là où on n'a pas recruté, où on n'a pas besoin d'afficher, ou bien là où on est dans des entreprises où on ne recrute pas.
Où il n'y a aucun avis, là, une candidature spontanée, vous voulez dire?
Oui. Donc, on peut avoir la possibilité de pouvoir étudier votre dossier et vous appeler et vous commencer à travailler. Maintenant, j'aimerais poser la petite question à notre invité.
Mmh, allez-y rapidement.
On se décourage parfois d'afficher une offre d'emploi. Il y a d'autres gens qui se disent, oh voilà, non, nous ne postule pas parce qu'ils ont déjà eu le leur, c'est inutile de postuler. Et si vous postulez,
c'est pour des formalités, on ne va pas vous appeler. Non. On ne va jamais vous appeler. Merci. Merci beaucoup Albert Monanga. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Cette fois-ci, allons à Bounia pour donner la parole à Héritier à qui nous disons bonjour.
Bonjour, Tati Mabouku, bonjour à Jérémy Daniel Kachamé, à tous les autres journalistes.
Nous n'avons plus assez de temps, allez-y rapidement à votre question.
Bon, je voudrais poser la question à M. Le Fiteux. Mon ami de Kananga nous a stipulé l'article garantissant l'accès au travail uniquement aux Congolais. Mais ce que nous assistons dans le pays, c'est le contraire, monsieur. Monsieur Tati Mabouku, ce sont les expatriés, ce sont les étrangers qui arrivent se mettre dans des bureaux, dans le business en RDC, mais les Congolais, eux, n'ont rien à faire dans leur beau pays. Est-ce que l'article, je trouve que le fait que l'article dit, c'est le contraire de ce que les autorités font dans notre beau pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire au moment où nous nous trouvons dans cette situation où ce sont les étrangers qui bénéficient des offres d'emploi dans les pays, au moment où nous qui sommes les autochtones, nous sommes en train de courir dans la misère. Est-ce que...
Héritier, là, il y a beaucoup de bruit ambiant là où vous êtes. Merci beaucoup, on a saisi la question. Je crois que Polydor Tanguely va directement répondre à ces deux auditeurs. Hein. À vous la parole, Polydor Tanguely.
Oui, merci pour cette question. Pour l'ami du Kananga, pour les amis qui se découragent. Mmh. Non, il faut développer une certaine résilience qui vous fait comprendre que lorsque, par exemple, on n'a pas obtenu l'emploi aujourd'hui, on peut l'avoir demain.
Oui.
Donc, le chèque doit nous servir de leçon pour savoir les erreurs qu'on a commises. Au fait, les amis, on n'a pas l'habitude de diagnostiquer son échec. Quand on a la culture de diagnostiquer son échec, on comprendra que dans chaque échec, on a une part de responsabilité. Et on se rendra compte de ce qu'on n'a pas pu faire pour arracher cet emploi-là. Et c'est que lorsqu'on aura compris ça qu'on va se préparer concrètement pour la prochaine opportunité. Voilà ce que je peux dire. Et à ce sens, le découragement n'a pas sa place lorsqu'on sait que l'emploi est vite. N'est-ce pas?
Oui.
Donc, celui qui abandonne accepte de mourir.
Tout à fait.
Il faut comprendre que le travail vous ennoblit. Le travail vous donne la vie, vous abandonnez de chercher l'emploi pour des raisons d'échec encaissé. Donc, c'est un auto-suicide. Vous vous suicidez pratiquement.
Alors, oui, Polydor, je reviens vers vous, s'il vous plaît, Polydor. Donnons d'abord la parole à un auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Il s'appelle Louis, à qui nous disons bonjour.
Bonjour à tous les étudiants de la radio Okapi.
Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps. Quelle est la question que vous avez?
Oui, avant de poser la question à M. l'invité, je voulais dire que ici au Congo, pour trouver l'emploi, c'est tout à fait un fléau. Nous, les jeunes qui terminent nos études actuellement, nous sommes exposés aux différentes difficultés. Par exemple, on peut exposer une offre d'emploi. Quand vous êtes recruté, ce sont les membres de la famille qui sont engagés au premier pas. Vraiment, ça nous étonne au cœur, vraiment. Nous, les jeunes de la vie de Kinshasa, surtout ici à l'été, vraiment, on peut terminer même les graduats ou soit la licence, mais pour trouver l'emploi, c'est un peu difficile. Nos mamans vendent des choses, d'autres des braises, d'autres des pains, pour nous faire scolariser. Et quand on termine nos études, on n'aura pas l'emploi. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut rendre sourire à nos parents? Vraiment,
Merci beaucoup, monsieur Lou. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. La ligne s'est dégradée, mais on a retenu l'essentiel de votre pensée. Polydor Tanguely, il dit que c'est difficile, la recherche de l'emploi, c'est compliqué ici à Kinshasa. Il y a la dimension clientélisme.
Non. Je crois qu'il faut une précision dans la compréhension de l'emploi. L'article qui dit il faut l'accès à l'emploi. Oui, l'accès à l'emploi ne veut pas dire distribuer l'emploi. Non, non. C'est-à-dire l'emploi, ce ne sont pas des beignets qu'on doit donner à chaque licencié qui finit son travail, non.
Non, il faut répondre à un certain nombre de critères.
On disponibilise le travail. Mmh.
voilà la responsabilité du gouvernement, de faire de sorte que l'emploi puisse exister et que les gens l'arrachent. Voilà. Alors, mais qu'on comprenne que l'accès, l'obtention de l'emploi est régie par les critères de la sélection. C'est ce que je comprends pas. Il y a le principe de la sélection puisque l'emploi fait appel aux compétences. Il y a le savoir-faire et le savoir-être qui sont requises pour exercer un emploi. Malheureusement, on a une connaissance erronée de cet article-là qui parle de l'accès. Ce n'est pas la distribution. Voilà pourquoi la dimension individuelle ici a son sens. Mmh. C'est nous qui devons aller vers cet emploi qui est disponibilisé. Séduire le pourvoyeur d'emploi. Pourvoyeur d'emploi pour qu'il puisse, nous puissions le convaincre à faire de nous son employé. Cependant, ça, ce sont un peu des dérivatifs qui sont nés de beaucoup d'abus au sein de l'administration publique, par exemple, où l'occupation d'un poste est sélectif, mais il y a eu des abus du genre le tribalisme, ainsi de suite, de la part des décideurs. Et ça a un peu tronqué le mental de beaucoup de jeunes, jusqu'à croire que, en tout et pour tout, même quand on lance un appel, on a déjà quelqu'un. Je peux venir avec mes capitaux de l'Europe, mais je dois prendre mon cousin. Mais quand je sens que je suis devant quelqu'un qui est très expérimenté comme mon cousin, il y aura la part des choses entre protéger son capital.
Oui, parce que c'est le capital que vous mettez en jeu.
Exactement. Parce que ceux qui prennent leurs frères, travailler avec un frère n'est pas aussi la solution de en tout et pour tout.
Oui, mais si le frère est compétent, il n'y a pas de souci.
Oui, s'il est compétent, il n'y a pas de souci. Mais faut-il casser cet argument et dire oui, c'est son frère, mais moi je vais affronter ce frère-là puisque je me sens mieux, je vaux mieux que ce frère-là. Et c'est donc la séduction que moi je recommande aux jeunes gens qui sont en train de demander l'emploi. Et en prenant en compte tous les éléments du réseautage, de renforcement de la capacité que Yves a évoqué. Donc, j'ai voulu juste insister sur cette dimension individuelle qui va vous donner une certaine mentalité de résilience. Beaucoup de personnes, après 5 ans, ont cumulé des expériences
grâce à des formations.
Ils ont aiguisé leur technique de recherche d'emploi et voilà, c'est en ce moment-là qu'ils abandonnent. Alors qu'ils sont prêts à être consommés par n'importe quel processus de réforme,
de recrutement,
d'embauche. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'ils lâchent. Nous en avons connu qui ont fait 10 ans de chômage, de recherche d'emploi, mais qui ont fini par l'avoir.
Oui,
donc,
merci beaucoup.
Donc rien ne sert à commencer à jouer au jeu des dames, ou à devenir Kuluna, ou fumeur de chanvre dans le coin de la rue. Pourquoi ? Puisque on n'en a pas trouvé.
Merci beaucoup, Polydor Tangeli. Nous rappelons que vous êtes psychologue de travail et promoteur du groupe Mossala. Merci d'avoir été avec nous dans ces sujets concernant le recrutement des jeunes qui terminent leurs études à la prochaine
Merci
occasion.
Beaucoup.
C'est par ici que nous clôturons au Capi Service de ce lundi. À la prochaine. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures d'émission. À la prochaine occasion. Tati Mapuku est à la présentation de ces numéros. Marcel Ngombo a réalisé et coordonné cette émission. Willem Lungamba était à la prise de son sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À demain.